franceinter.fr.
19h16 sur France Inter, à présent le journal des sports, c'est avec vous Michel Gourdin, bonsoir.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Le Paris Saint-Germain reçoit Toulouse. Ce soir, le public du Parc des Princes va enfin voir en action, enfin on l'espère, Neymar.
Et oui, il y a eu la présentation de Neymar, c'était il y a 15 jours avant le match face à Amiens. Il y a eu ses débuts sur le terrain de Guingamp la semaine dernière. Mais ce soir, vous l'avez dit, c'est le grand soir. Bertrand Kenneth, vous êtes en direct du Parc des Princes, bonsoir.
Bonsoir Michel, bonsoir à tous.
Bertrand, tout le public parisien attend monts et merveilles de la prestation de sa star brésilienne dans son nouveau jardin.
Oui, et il n'y a qu'à voir, Michel, les milliers de supporters déjà réunis devant les entrées et qui attendent en ce moment de pouvoir pénétrer à l'intérieur. Parmi eux, beaucoup de Brésiliens, de maillots jaunes aussi. C'est le maillot extérieur du Paris Saint-Germain cette saison qui rappelle celui de la Seleção, la nation brésilienne. Match à guichet fermé ce soir. Tous veulent admirer le prodige, le nouveau prodige pour sa première dans son nouveau jardin. Peut-être fera-t-il d'ailleurs aussi bien que la semaine passée à Guingamp, où il avait inscrit un but et offert une passe décisive. Peut-être fera-t-il aussi bien aussi que un autre Brésilien qui en 1983 pour sa première ici avec le maillot parisien avait marqué d'entrée. Neymar connaît en tout cas le chemin défilé au Parc des Princes, lui qui a déjà planté deux fois ici, mais c'était avec le maillot du FC Barcelone.
Alors Bertrand, côté sportif et sur le papier, un monde sépare le Paris Saint-Germain de Toulouse, mais attention, Toulouse c'est un petit peu le cauchemar de Paris.
Et oui, deux matchs l'an dernier en championnat entre les deux équipes et cinq points perdus par les Parisiens. Une victoire toulousaine au Stadium, 2-0 et un nul ici, 0-0 au Parc des Princes. Pascal Duprat, l'entraîneur de cette équipe toulousaine, sait en général comment donner du fil à retordre aux Parisiens. Il est l'un des rares d'ailleurs dans ce championnat de Ligue 1. Ce soir, pas de plan Neymar, a-t-il affirmé, mais un bloc sans doute très bas. Le coach du TFC a laissé entendre qu'il placerait le bus devant son but. Autrement dit, comprenez, tout pour la défense et des contre-attaques si Neymar et ses copains commettent quelques erreurs et laissent le ballon à ses Toulousains, ce qui n'est évidemment pas garanti.
Merci Bertrand Kenneth, le coup d'envoi de ce PSG Toulouse. C'est à 21h, les débuts de Neymar au Parc des Princes seront suivis de près au Brésil, bien sûr. La semaine dernière, le match à Guingamp était retransmis en direct à la télé et ce sera encore le cas ce soir à Sao Paulo, sa ville. Comme dans tout le Brésil, Neymar est un dieu vivant, mais Marino Dacher, il faut parler foot par Jean.
Chegou a nova camisa do Neymar Júnior, PSG.
Dans cette rue très populaire du centre, les maillots se vendent à la criée. Neymar est en tête des ventes le plus abordable. Coûte 35 reals, 10 euros et José Roberto en a déjà vendu plus de 20.
Le jour où il a été transféré, les maillots sont arrivés tout de suite, le jour même. Et ils se vendent bien pour adultes et aussi taille enfant, car ils adorent Neymar.
Qu'il soit au Barça ou au PSG pour les Brésiliens, Neymar reste marqué par l'identité de son club d'origine, Santos.
Je suis fan de lui, je suis Santiste, la même équipe que lui. En 2011, au stade Pacaembu, il nous a donné la coupe Libertadores. Neymar, Ganso, Renato, toute l'équipe, quelle émotion.
La semaine dernière, le joueur le plus cher de tous les temps a annoncé qu'il paierait les 2 millions d'euros qu'il devait au fisc brésilien. Mais dans un pays marqué par la crise, le salaire de Neymar fait scandale.
Absurde. Pour nous, les Brésiliens, ce qu'ils respirent, c'est l'équivalent de notre salaire. Alors c'est difficile de voir qu'il est accusé de ne pas payer ses impôts. Bon, qu'il ne paye tout simplement pas ses impôts, en fait.
Critiqué, certes, mais Neymar reste le chouchou des Brésiliens.
Avant l'événement de la soirée, deux rencontres se sont déroulées cet après-midi. Caen s'impose à Lille 2-0 au but de Da Silva et Santini. Deuxième défaite consécutive pour les joueurs de Marcelo Bielsa. Et puis il y a quelques minutes, Marseille a concédé le nul face à Angers, un but partout. Stéphane Burgat, l'OM a raté une belle occasion de rejoindre Monaco et Saint-Etienne en tête du classement. L'OM souffle le chaud et le froid.
Difficile de jauger cet OM-là, c'est tout le paradoxe de cette équipe marseillaise, capable d'enchaîner les matchs sans défaite, 24 toutes compétitions confondues, malgré des lacunes au milieu de terrain et en défense. On l'a vu cet après-midi encore, symptomatique avec cette ouverture du score de Clinton Enji pour l'OM après un cafouillage dans la surface de réparation adverse. Et en réponse, Angers qui appuie là où ça fait mal et cette défense olympienne, parfois attentiste comme sur l'égalisation de Toko et Cambi, pas inquiété sur son couloir, il repique au centre, frappe et marque. En réaction, l'OM qui pousse, l'OM qui se précipite mais ne réussit qu'à écoper d'un carton rouge pour Lucas Ocampos. Un partout, score final inquiétant avant de jouer une semaine décisive et chargée en championnat comme en Coupe d'Europe. Marseille, Stéphane Burgat, France Inter.
Monaco et Saint-Etienne en tête du championnat avec un sans faute après trois journées, en attendant bien sûr le résultat du PSG qui peut revenir à hauteur en cas de succès tout à l'heure. En Ligue 2, Alain Casanova n'est plus l'entraîneur de Lens. Il vient d'être limogé suite à la quatrième défaite en quatre matchs du Racing. C'était prévisible, Elliot Will.
Une 19e place et 0 points en 4 matchs, c'est le très faible bilan d'Alain Casanova en ce début de saison. C'est surtout une première dans l'histoire lensoise, une situation qui a fait monter la colère des supporters. Une colère qui est allée jusqu'à l'invasion de la pelouse à l'heure de jeu hier face à Brest, interrompant le match pendant 15 minutes. Les supporters du club sans or avaient besoin d'exprimer leur mécontentement. Des casas d'émission ont été scandés dans le stade Bollaert. Ce dimanche, ils ont été entendus. Alain Casanova a été suspendu de ses fonctions après une saison et 4 matchs. Eric Sikora a été nommé à sa place. L'ancien défenseur du RC Lens a joué toute sa carrière dans le club nordiste, 590 matchs. Depuis 2012, il entraînait la réserve lensoise et aura donc la lourde tâche de sortir les 100 et hors de cette mauvaise passe.
Ce week-end, Michel marque aussi l'ouverture du championnat de foot en Espagne. Barcelone reçoit le Betis de Séville, on l'a dit, dans un contexte très particulier.
Eh oui, ce match devait être une fête. On connaît le lien très fort qui unit le public barcelonais à son équipe de foot. Mais évidemment, ce soir, c'est surtout l'émotion qui va prévaloir à Barcelone. David Bru, vous êtes à l'intérieur du Camp Nou. Les mesures de sécurité sont maximales et les joueurs du Barça vont rendre hommage aux victimes des attentats.
Oui, oui, effectivement, les mesures de sécurité sont si exceptionnelles que j'ai toujours pas pu m'approcher encore du Camp Nou. On a une heure et quart du match, début du match entre Barcelone, Betis et Séville. Et les contrôles de sécurité sont drastiques, bien plus que pour les classicos entre le Barça et le Real Madrid. Alors, il n'y a pas de chiffre officiel ce soir, mais le chef de la police a dit hier que les contrôles avaient été doublés par rapport aux attaques de Paris. Tout de suite après, il y avait un match au Barça. Ils avaient pris évidemment des mesures drastiques de sécurité. À l'époque, il y avait environ 600 policiers dans le stade et en dehors. On peut s'attendre ce soir à environ 1000. Alors, le Barça est évidemment très populaire. Il y a beaucoup de touristes étrangers ce soir qui sont en présence. 95 000 personnes sont attendus pour voir ce match-là, ce premier match de la saison en plus entre le Barça et le Betis, et tout est évidemment mis en œuvre pour que tout se passe bien. Et les joueurs, vous l'avez dit, vont évidemment respecter une minute de silence qui s'annonce vraiment très émotive. Lionel Messi sera le capitaine ce soir en l'absence d'Andrés Iniesta. C'est un symbole. Messi, l'enfant argentin accueilli à 13 ans au FC Barcelone, tous les joueurs du Barça et du Betis revêtiront un brassard noir. Et les joueurs ne porteront pas leur nom dans le dos, il y aura simplement le mot Barcelona en signe d'unité.
Merci David Bru en direct de Barcelone. Enfin, pour être complet dans cette page foot, l'équipe de France féminine des moins de 19 ans dispute ce soir la finale de l'Euro face à l'Espagne. C'est un match à Belfast.
Et en Espagne toujours, Yves Lampaert remporte la première étape de la Vuelta.
Ah oui, le coureur belge s'est imposé en faisant la différence au train dans le dernier kilomètre de cette première étape en ligne qui emmenait le peloton de Nîmes à Narbonne, et il s'empare du même coup du maillot de leader. Premier français cet après-midi, Julien Alaphilippe, à la 7e place. Alaphilippe qui est aussi le coéquipier du vainqueur du jour. Bref, une journée parfaite sur le bord de mer.
Il fallait rester vigilant toute la journée. C'était vraiment très, très fatigant dans la tête. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu d'échappée. Tout le monde était très nerveux avec cette étape, avec le vent et tout. Le risque de bordure, du coup, voilà, ça fait une journée un peu spéciale, très, très usante. Et voilà, dans le final, c'était tout pour Mathéo. On a vraiment fait un grand travail. C'est génial, ça ne peut pas mieux commencer. Voilà, hier, on n'a pas gagné, on fait deuxième, mais elle a gagné comme ça. Voilà, maillot de leader, une victoire d'étape, ça ne peut pas mieux commencer, quoi.
Et après-demain mardi, demi-finale de la Coupe du Monde de rugby féminin avec un France-Angleterre qui promet.
Ce sera l'heure de vérité pour les Bleus, eux, opposés aux Anglaises. Tenantes du titre, les tricolores ont impressionné lors des matchs de poule, ne laissant que des miettes à leurs adversaires. Au programme de cette journée pour les Bleus, entraînement et surtout analyse vidéo du jeu des Anglaises. Il ne faut rien négliger, car l'Angleterre, pour l'ailière Chloé Pell, c'est du très très haut niveau.
Ça reste quand même la première équipe mondiale. Après, de toute façon, on sait que si on veut être championne du monde, il faut battre tout le monde. Donc, que ce soit l'Angleterre ou la Nouvelle-Zélande, maintenant, comme on est dans le dernier carré, c'est que des grosses équipes, forcément. C'est une équipe qui est très complète et c'est des filles qui jouent au rugby depuis qu'elles sont petites. Ça va être compliqué, mais bon, de toute façon, faut en passer par là. Il y a la technique qu'il faudra améliorer sur certains points. Et puis, de l'autre côté, on sait que voilà, il faut avoir du caractère. C'est notre détermination qui pourra faire la différence s'il y a des grosses séquences. C'est celle qui lâchera en premier qu'aura perdu.
ce France-Angleterre, demi-finale de Coupe du Monde, c'est mardi soir à Belfast, en Irlande du Nord.
Et aux États-Unis, la saison d'IndyCar attaque sa dernière ligne droite.
La IndyCar aux États-Unis, c'est l'équivalent de notre Formule 1 avec entre autres la fameuse course d'Indianapolis. Il reste 4 Grands Prix, dont celui de cette nuit à Pocono, en Pennsylvanie. Simon Pagenaud est 4e du classement du championnat, à seulement 17 points du leader. Le pilote français est donc toujours en position pour être sacré, comme il y a 2 ans. Pagenaud est une star et un pilote reconnu aux États-Unis, beaucoup plus par exemple que l'Allemand Sébastien Vettel, l'actuel leader du championnat de Formule 1. Et pourtant, Guillaume Batin, pas question pour Pagenaud de rejoindre la F1.
À 33 ans, Simon Pagenaud est à l'apogée de sa carrière et la Formule 1 ne fait plus partie de ses objectifs.
À moins que Ferrari ou Mercedes appellent, non, pas du tout. Je m'amuse beaucoup plus ici. Ça, on a des courses comme celle-là, je pense que même Alonso vous le dira, c'est des courses de folie, c'est... Voilà, et on s'éclate, c'est de la course, il n'y a pas de politique. Les voitures sont les mêmes.
Le pilote français est très attaché aux États-Unis et au championnat IndyCar. Il y a trouvé son équilibre professionnel et familial depuis qu'il s'y est installé il y a 12 ans.
J'ai envie d'avoir une chance de gagner, donc je ne suis pas intéressé pour être dans une écurie qui ne me permettrait pas de gagner. Je sais qu'avec Penske, j'ai une chance de gagner à toutes les courses. Je sais que je me bats contre, selon moi, les meilleurs pilotes du monde. Et puis, il y a les stratégies qui sont intéressantes, qui font que c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, les courses ne sont pas ennuyeuses. Et c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Donc, c'est jamais perdu en IndyCar. En F1, quand le premier virage est passé, il n'y a pas grand-chose d'autre qui se passe. Après, la F1, c'est magnifique. La technologie est belle, mais le sport, il est ici.
Après une 2e place en 2011, Simon Pagenaud rêve de remporter un jour les 24 heures du Mans. Mais il devrait terminer sa carrière aux États-Unis au sein de l'écurie Penske, avec qui il a re-signé l'an dernier un contrat longue durée.
Et ce soir, 3 mois seulement après son terrible accident à Indianapolis, Sébastien Bourdais, l'autre Français engagé en IndyCar, va reprendre le volant. Et cela malgré d'énormes douleurs dues à sa fracture à la hanche. Le verdict du championnat IndyCar, c'est le 17 septembre. L'Estonien Ott Tänak remporte le rallye d'Allemagne au bénéfice de sa 3e place. Sébastien Ogier reprend la tête du championnat du monde.
Et pour finir demain, le coup d'envoi des championnats du monde de lutte à Bercy.
Et l'objectif pour la France sera de décrocher une médaille, un objectif modeste. On est loin, en effet, de la période faste et des 2 médailles olympiques des frères Guénot à Londres en 2008. La lutte en France, c'est 20 000 licenciés seulement. Alors ce mondial doit marquer un nouveau point de départ pour la lutte tricolore. Virginie Tobor, elle est directrice de l'équipe de France.
Notre objectif sportif, c'est au moins une médaille. Et moi, j'avoue que je serais très heureuse que les 3 styles puissent porter brillamment les couleurs de la France. Pour nous, les championnats du monde 2017, c'est le reflet d'une nouvelle identité. En tout cas d'une nouvelle image de notre fédération. Et accueillir ces championnats aujourd'hui, c'est relever 2 enjeux. C'est être à la hauteur en tout cas des exigences de la fédération internationale et aussi des enjeux qui nous attendent pour Paris 2024. C'est aussi pour nous l'occasion de montrer aux yeux de tous que la lutte, c'est loin d'être une pratique démodée. On doit être motivé. Les championnats du monde à Paris. Donc j'attends en tout cas et là je m'adresserai à nos lutteurs et nos lutteuses qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et peut-être un peu plus parce que cette occasion, on ne la retrouve pas souvent en France et qu'il faut en profiter.
Une semaine après la fin des championnats du monde d'athlétisme, nos champions sont fatigués. Ils ont peut-être trop fêté leur médaille. Mélina Robert-Michon n'a pris que la 6e place du disque au meeting de Birmingham avec 62,17 m. Christophe Lemaître, lui, ne s'est pas qualifié pour la finale du 100 mètres.
C'était le journal des sports de Michel Gourdin. Merci Michel. 19h30 sur France Inter.